Il est bien ton bouquin.
Casse pas des briques. Mais le tien.
Je comprends rien.
Mais ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux?
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Petit verre d'eau.
Ça s'appelle un effet non spécial. C'est un effet ordinaire, le bruit de l'eau. La première gorgée d'eau.
Mais oui, l'eau.
Comment allez-vous, mon cher Romain Baxter?
Très bien, mon cher Anthony. Bonjour à toutes et à tous.
Le saviez-vous? Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Vous saviez ça?
Oh, c'est beau,
alors,
tout
voilà,
ça
c'est, je vous donne, c'est une citation. Et alors, oui. Deux propositions. Est-ce que, à votre avis, c'est Alexandre Solzhenitsyn ou Lev Yashin, grand gardien de l'URSS, qui a prononcé cette phrase?
Allez, Lev Yashin.
Je suis vraiment un salopard, c'est aucun des deux. C'est un dicton russe que j'ai trouvé. Comme ça, j'avais envie de mettre un petit peu de mystère et un peu une petite parenthèse slave.
Oh, c'est beau. Eh oui, donc c'est l'été permanent hein, pour l'espoir. Oui. Mais bon, il y a malheureusement des saisons à l'année.
Alors, je rajouterai derrière Rasputin, Lover of the Russian Queen, There was a cat that was really gone.
Très bien, alors je vais utiliser juste Rasputin. Hein,
alors, au milieu de ce lot d'informations un petit peu quand même disparates.
Oui, mais il est question de Rasputin ce matin dans la chronique littéraire hebdomadaire de la Librairie Caractère. En effet, on va rentrer dans l'ouvrage de Giuliano da Empoli, Le mage du Kremlin, hein, qui parle du Rasputin actuel ou un peu passé. Donc en Russie, qu'est-ce qu'un Rasputin? J'ai pas précisé, aux éditions Gallimard.
Da.
Paru en avril 2022. Ce roman avait été commencé il y a deux ans hein, par l'auteur. Il est sorti, on va dire, à propos hein, la situation, le contexte géopolitique actuel. Mais c'était un projet voilà, qui datait bien sûr d'avant. Donc l'intérêt d'un livre en fait, qui colle à l'actualité alors qu'il n'était pas été prévu pour. Quoi. Le mage du Kremlin, donc, voilà, c'est l'histoire tout simplement hein, d'un des conseillers, le conseiller le plus influent de Vladimir Poutine. Déjà, un mot sur l'auteur.
Hein, oui, parce que, voilà, oui parce qu'il est fondé, avec voilà. Un nom pareil, pourquoi, je ne viens pas forcément de Saint-Pétersbourg.
Non, voilà, pourquoi Giuliano da Empoli écrit sur la situation politique russe tout simplement parce que cet auteur est un éminent conseiller politique italo-suisse, actuellement professeur à Sciences Po Paris. C'est l'ancien conseiller de Matteo Renzi, hein, le fameux président du Conseil italien de 2014 à 2016. C'est également donc, l'auteur Giuliano D'Ampoli, un ancien adjoint à la culture de la ville de Florence. Voilà, donc c'est un homme aguerri au cercle de pouvoir au plus haut niveau hein, de l'État italien. Donc Giuliano D'Ampoli, en fait, c'est son premier roman. Hein. Il a écrit beaucoup d'essais donc, géopolitiques, d'essais en stratégie hein, sur différents aspects de la société, mais aussi sur l'exercice du pouvoir. On va dire que c'est un digne héritier de Machiavel, hein, Giuliano da Empoli. Voilà, c'est donc son premier roman où il développe donc, la figure centrale de ce roman, comme on le disait en début de chronique, c'est un Rasputin moderne. Qui était Rasputin? Un petit mot. Rasputin, c'était le confident de l'épouse du tsar Nicolas II, et c'est un homme très très influent à la cour du tsar. Donc en fait, là, c'est un peu la même chose qui se passe un siècle après. Hein,
c'est le serpent dans le livre de la jungle.
Qui enserre oui, ses ennemis progressivement. Donc là, c'est centré sur Vadim Baranov.
C'est un nom d'emprunt, c'est le nom de... Je suis allé chercher, j'ai bossé, oui, exceptionnellement, de Vladislav Surkov.
Tout à fait, complètement inconnu hein, du grand public européen, alors que pourtant c'est un homme central. C'est lui tout simplement qui a accompagné Poutine dans son accession au pouvoir. Comme je le disais, bon, conseiller là, de Poutine pendant une quinzaine d'années, mais à ses tout débuts, fin des années 90, c'était un producteur de séries télé, un dramaturge, un écrivain, un homme d'affaires aussi, et surtout cofondateur du parti de Poutine, Russie Unie, hein, qui a mené donc Poutine au pouvoir en 2001. Également été vice-président du gouvernement, il ne faut pas l'oublier quand même, ce Vladislav Surkov, vice-président du gouvernement chargé de la modernisation en 2011, nommé par Dmitri Medvedev, vous savez, l'homme de paille là, qui a été mis au pouvoir par Poutine. Donc,
on ne dit pas ce qu'il est devenu, Vladislav Surkov.
Si, allez-y.
Non, je pensais que dans le livre, on allait spoiler le livre.
Écoutez, tous ces hommes de pouvoir, ces confidents, donc Rasputin a fini assassiné.
Mais lui, il est en prison.
Voilà, là, il est en résidence surveillée.
En résidence surveillée.
Quand même, comme vous allez vous
et on ne sait pas pourquoi.
Peut-être peut-être tout simplement, vous savez, la fameuse métaphore du Pygmalion. Au bout d'un moment, on s'en émancipe hein, ouais. de son créateur. C'est toujours comme ça. Donc Poutine.
On met en avant, il a des origines tchétchènes.
En tout cas, s'il a des origines tchétchènes,
j'en double.
Il est oui, mais alors même, je pense triple ou quadruple.
Hein, ouais, sextuple.
Ces figures-là, c'est complètement hallucinant. On va rentrer un peu plus oui. dans le vif du sujet. Donc le mage du Kremlin, donc c'est un narrateur qui raconte les confidences que lui fait ce fameux Vladislav Surkov, appelé donc Vadim Baranov, qui lui raconte tout ça au coin du feu, un peu, c'est un procédé stylistique classique, hein, on raconte une histoire qu'on a entendue, et donc il lui raconte simplement sa vie de pouvoir aux côtés de Vladimir Poutine. Donc là, on rentre vraiment, vous voyez, dans la tête, en fait, de Vladimir Poutine avec ce roman.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans la tête de Vladimir ?
Eh bien, écoutez, on trouve notamment la verticalité du pouvoir. Et donc, Baranov, c'est un dramaturge, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que lui, il a théorisé notamment l'exercice du pouvoir en lien avec donc, cette verticalité, vous voyez, après 89. C'est un peu un cliché, un lieu commun de dire ça aujourd'hui, mais après 89, la perte d'influence de la Russie, c'est-à-dire l'ancienne Union soviétique démantelée, donc une perte très, très importante d'influence au niveau mondial, quoi. Donc, il y a une espèce d'humiliation, si vous voulez, d'origine liée à cette période, qui serait, du moins, conditionnel, qui serait vraiment fondatrice des relations que la Russie organise avec le reste du monde. Quoi. C'est vraiment en lien avec cette humiliation, la Russie ne s'est jamais sentie respectée. Donc dans la tête de Vladimir Poutine, il y a ce besoin, cette tentative d'instaurer cette verticalité du pouvoir. Mm-hmm. Vous voyez, toujours est-il que...
Oui, prenez... C'est bon,
un peu d'eau,
hein.
Voilà.
Ah, c'est bon.
Eh bien,
l'eau, cet élément transparent.
Donc voilà, ce que Baranov a voulu, et bien évidemment Poutine a appliqué, hein, c'est-à-dire une verticalité du pouvoir, voilà, réaffirmer la force du chef, hein, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette verticalité du pouvoir ne peut s'exprimer que dans un chaos absolu. C'est-à-dire, qu'est-ce que le chaos ? Le chaos, c'est qu'il a monté donc, le parti Russie Unie, il a également monté des partis d'opposition.
Le PRU.
C'est ça qui est
c'est
beau.
Le PRU.
C'est
le Parti Russie Unie.
Oui, voilà, le Parti Russie Unie, mais il a également monté donc d'autres partis, vous voyez, d'opposition à Russie Unie, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il a révélé l'imposture. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il fait une imposture, ensuite il révèle l'imposture. Donc dans ce contexte-là, on peut plus savoir vraiment qui dirige quoi. Vous voyez, on nage en espèce
what's the fake,
chaos,
what
voilà,
the fuck.
Exactement. Mais voilà exactement qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est complètement fabriqué.
Je vais le déposer, ce que je viens de dire.
Voir. Oui, ça c'est de la punchline. Vous pouvez sans doute la proposer d'ailleurs aux propagandistes russes, à mon avis, il faudrait le traduire en russe, ça serait plus sympa. Voilà ce qu'il y a dans la tête de Poutine, il y a cette verticalité du pouvoir et il y a ce chaos organisé. Vous voyez, nous, les Occidentaux, on est vus comme des gens rationnels, hein, qui faisons des économies pour s'acheter une maison ou alors des biens...
Un barbecue, tout, un chien, tout voilà. ça.
Mais on oublie qu'en face de nous, on a un peuple qui a inventé la roulette russe. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes attentes existentielles.
Une chance sur six.
Donc là, vraiment, on rentre aussi un peu dans ce qu'on appelle, alors c'est vraiment une gageure, hein, l'âme russe, qu'est-ce que l'âme russe ? Bon, c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'ils ont aussi certains cynismes et désenchantements que d'ailleurs nous aussi, les Français, on a un peu. Et c'est ça qui est passionnant avec ce roman, c'est de rentrer aussi bien dans la tête de Poutine, disons, un homme sans doute un petit peu hors norme, mais également dans la tête du russe moyen, quoi. C'est ça qui est passionnant avec le mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Mais il y a également cette humiliation dont on parlait avant et dont je me propose de lire un petit dialogue inventé parce que donc là on va entendre Poutine qui revient donc d'un sommet international, qui s'assoit dans un petit bureau et qui parle donc à son fameux Baranov, là, son fameux idéologue en chef. Poutine, je cite: c'est toujours la même histoire, on me traite comme si j'étais le président de la Finlande. Pire, parce que pour eux, la Finlande est un pays civilisé, tandis que nous sommes la Russie sauvage, une espèce de clochard alcoolisé qui rôde devant la porte. Peut-être qu'ils ont raison, nous avons été les premiers à nous comporter comme des mendiants, un sourire pour tout le monde et l'assiette pour les aumônes bien en vue. Je me souviens des clochards quand j'étais gosse à Leningrad. Tu sais, les enfants du quartier leur donnaient des coups de pied, et plus ils criaient, plus ils les frappaient, juste comme ça pour s'amuser, tous sauf un. Ce n'était pas le plus grand, il était assez mal en point, je crois qu'il s'appelait Stéphane. Tu sais ce qu'il avait de différent ? Il était fou, complètement imprévisible.
Heureusement qu'il fait 40 degrés parce que ça fait froid dans le dos. Un peu,
voilà, oui. Donc en effet, ça fait froid dans le dos et en même temps, ça replace bien évidemment voilà, le contexte ukrainien dans cet exercice du pouvoir donc assez machiavélien, hein, quand même à le dire les lecteurs de Machiavel. Voilà, c'est vraiment un livre passionnant qui nous permet de, voilà, une fois de plus, hein, je le dis, d'avoir un aperçu des arcanes, vous voyez, et le roman, oui, comme on le disait, il me semble, le roman est le mieux placé, en fait, hein, pour traiter du réel, quoi. C'est ça qui est passionnant, parce que c'est bien loin de toutes nos imaginations, disons, d'hommes simples. Ouais. Voilà. Là, on rentre dans les hautes sphères de la manipulation et de l'exercice du pouvoir. C'est complètement incroyable et à la fois extrêmement réaliste. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce roman.
Dans la tête de Vladimir Poutine et dans le cervelas de celui qui était dans la tête de Vladimir, du tsar.
C'est un jeu de poupée russe, voyons.
Joli. Giuliano da Empoli, le mage du Kremlin, et c'est chez Gallimard. Du tsar à l'auteur des Résidents de la République, Alain Bachung. J'ai cherché un petit lien quand même.
Belle transition.
Bachung fêté samedi soir dans vos murs.
Oui, voilà, 19h, on aura donc Bachung Memento, un duo de guitaristes qui rendra hommage donc à cet éminent poète du rock français. Voilà, il y aura donc Gilles Pelletier, guitare, et Pascal Viard, guitare et voix, voilà, pour un bel hommage.
Oui, aux plumes de Boris Bergman et de Jean Fauque. C'est
à partir de 19h, samedi, l'entrée est libre, comme d'habitude.
On va se le faire d'ailleurs le titre juste avant. On peut déjà se projeter vers mercredi prochain.
Ouais, complètement. Mercredi prochain à 19h, ce sera une très très belle rencontre avec Corinne Morel-Darleux, l'autrice d'un petit essai, là, il y a 3 ans, là, 2019. Mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce. Vous voyez, un petit texte vraiment percutant. C'est aussi une punchline. Hein.
Ça fait très Neil Young, hashtag Neil Young, hashtag Kurt Cobain. Vous savez, c'est le petit mot qu'il avait laissé, une phrase d'une chanson de Neil Young. C'est mieux vaut se consumer dans un grand feu que de brûler petit à petit. Hein. C'est extrait de Hey Hey My My. C'est un petit peu la même chose.
C'est tout à fait possible. On lui posera la question parce qu'il y a beaucoup de références dans ce petit essai, les références littéraires notamment. Ouais. Et où, vous voyez, notamment Bernard Moitessier, elle en parle, vous voyez, le fameux navigateur là, qui a décidé de continuer, de ne pas s'arrêter à la fin de sa course pour un peu fuir le monde qui l'attendait. C'est un petit essai de collapsologie, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire la science de l'effondrement pour aller vite, c'est-à-dire parler du monde qui s'effondre autour de nous et que faire. Et malgré ce titre qui semble tout de même cool. C'est plutôt un essai qui se tourne vers l'avenir, quoi.
D'accord.
Une prospective, comment faire pour vivre avec ça, tout ce qu'on peut faire, bien évidemment, pour résister. Donc c'est plutôt un essai, pour moi, de résistance, quoi, plutôt que de constats, vous voyez, désabusés, sur la situation écologique, politique et sociale. Voilà, donc Corinne Morel-Darleux, mercredi prochain à 19h, ça va être passionnant. Elle a également été la rédactrice en chef, là, d'un hors-série de la revue Social Terre. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette revue, une revue de sociaux critique, écologique, très très radicale et extrêmement cohérente. Vraiment, c'est une des rares revues où on ne voit pas une pub pour Bolloré, disons, après un article sur l'écologie. C'est vraiment une revue indépendante. Et donc, voilà, elle en a été la rédactrice en chef exceptionnelle pour le hors-série qui vient de sortir. Donc, on la questionnera sur tous ces sujets mercredi prochain à 19h.
Bon, bah écoutez, de la canicule à la collapsologie, en passant par Kurt Cobain, Vladimir Poutine, jusqu'à Alain Bachon, qui n'est plus là, mais qui est toujours avec nous. Peut-être à bientôt, Romain Baxer.
À bientôt. Bientôt, Anthony Lecoq, à bientôt.
Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour, je sourirai moins. Jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je parlerai moins. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour, je courirai moins. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier, on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, les atomes, fais ce que tu veux. Un jour, je te parlerai moins. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour, je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier, on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penche. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Résident, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux.
MDN. Bienvenue sur la moins pénible des radios.